السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Rabbul Izzah qui, dans sa clémence et sa grâce, nous donne à tous la possibilité d'aborder une période extrêmement riche sur le plan spirituel. Nous parlons bien sûr de l'approche du mois de Dhul-Hijjah et de sa première décade, décade à laquelle nous devons donner autant d'importance, sans exagération, autant d'importance qu'au mois de Ramadan. Nous allons essayer de citer quelques points en rapport avec trois actions qui sont spécifiques à cette première décade de Dhul-Hijjah. La première des actions, c'est bien sûr, d'une façon générale, l'importance de la première décade qui est citée dans « Wal-Fajri wal-Layali na'ashr ». Le deuxième point, les signes ou quelques signes de véracité et de vérité à travers le Hajj, au-delà de l'aspect culte, ibadah, masla, la grandeur d'Allah, la réalisation de la mission prophétique et l'apparition zahiran aux yeux du monde de la véracité de l'islam à travers le rassemblement du Hajj. Et troisième point, un sujet qui nous concerne, nous qui ne voyageons pas, la spiritualité dans le sacrifice du Udhiya, dans le Qurbani. Mais avant ça, même si une phrase est suffisante pour chaque point, je pense qu'il est important en ce début, on pourrait dire d'année scolaire 2017-2018 qui correspond en cette année à un jour de vendredi, il est nécessaire pour nous de souhaiter une bonne rentrée à nos élèves, une bonne rentrée aux étudiants et une bonne rentrée aux professeurs, aux personnes qui enseignent. Mes chers frères en islam, le message, on le véhicule aux parents parce que les étudiants ne sont pas encore là lors de Jumu'ah, mais il est de devoir des parents ensuite de faire passer le message. Il faut savoir que l'accès à l'éducation est un bienfait. L'accès à l'éducation est un bienfait. Le prophète alayhi salatu wassalam avait souhaité que l'ensemble de sa umma ait un niveau d'éducation leur permettant d'avancer de leur pratique et dans l'apprentissage de la connaissance religieuse, parce que l'apprentissage se fait par le biais des livres, donc ça nécessite lecture, compréhension, mais également un niveau d'éducation qui leur permette également de s'acquitter, que chacun d'entre nous puisse nous acquitter de nos obligations, de nos devoirs envers nos proches, et également d'apporter la subsistance, le risque à la famille, mais aussi de réussir le rôle de chaque croyant au sein de la société. Voilà donc quelques objectifs de l'éducation: comprendre sa religion à travers les textes, également trouver sa place au sein de la société en exerçant un métier qui nous permet de faire avancer les choses et gagner de façon licite sa vie. Tout ça, ce sont des points nobles et encouragés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une anecdote qui nous fait comprendre comment est-ce que le prophète donnait de l'importance à l'éducation des enfants après la campagne de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam avait en face de lui des personnes qu'il avait combattues. Le prophète avait proposé la liberté à ces individus qui venaient de Mecca, qui avaient attaqué les musulmans, en échange de l'éducation de 10 enfants parmi les Ansar. Apprenez à lire et à écrire à 10 de nos enfants et vous aurez la liberté. Ça nous donne une idée. Comment est-ce que l'éducation était quelque chose de cher pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le message qu'on aimerait faire passer aux élèves et aux étudiants d'une façon générale, appliquez-vous. Qu'ils s'appliquent dans leur parcours scolaire, dans leur parcours par la suite universitaire, afin d'avoir, comme on a dit, une situation professionnelle stable un jour, qui permettra à chacun de fonder une famille et de jouer un rôle essentiel au sein de la société. Et pour qu'on ait un aperçu du juste milieu de l'islam, parce que très souvent quand on parle dans les discours, les vaez ou les bayans, nous restons parfois un peu sur le domaine du culte, le ibada, mais on a besoin parfois de voir un peu plus loin, de voir l'apport de notre religion également sur le plan l'éducation, sur la réussite, sur le parcours professionnel. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle: ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadihi. Le meilleur salaire c'est celui que tu vas obtenir en travaillant. Le sens du hadith, et on pourrait adapter avec une expression française, à la sueur de son front. Ça, c'est le meilleur salaire pour le croyant, ce qu'il va obtenir en faisant des efforts. Quand il se lève le matin, il va travailler, et à la sueur de son front, il fait ses efforts, il ramène la subsistance licite. Il est en train de remplir un devoir, il est en train de s'acquitter d'un devoir envers sa femme, envers ses enfants. Et quand on parle du mot devoir, justement, le terme est très fort dans un hadith, ça m'explique. Le premier hadith était rapporté par Bukhari et Muslim et celui-là par Al-Bayhaqi. Aller à la recherche de la subsistance halal, c'est ce deuxième hadith, est une obligation après les obligations. Ça veut dire quoi une obligation après les obligations? Autant nous avons des engagements envers Allah à travers la salat, à travers les actions de la religion, nous avons également des obligations envers les personnes qui sont sous notre autorité. Et donc travailler pour gagner de façon licite sa vie, ça fait partie des devoirs du croyant. Dans un hadith, on parle de farida, dans un autre hadith, on parle de wajib. On comprend, ce sont deux mots qui prouvent l'importance de ce geste. Troisième hadith, et là, nous allons un peu plus loin, dans le, au-delà du fait de gagner sa vie, c'est l'apport du croyant pour les membres, les personnes, les composantes de la société. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle « Al-mu'minul qawi khayrun wa habbu ila Allahi min al-mu'minil da'if » que le croyant qui est fort, c'est-à-dire que le croyant qui va aider son prochain et qui pourvoit donc aux besoins des autres et qui aide la société est aimé par Allah. Allah aime cette personne qui est productive, qui agit, qui permet à sa société d'avancer, qui vient en aide aux personnes qui sont dans la nécessité. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle Al-yadul ulya khayrun min al-yadis soufla. La main qui donne est meilleure que la main qui est tendue, qui attend de l'aide. Et ça, c'est un principe qui nous montre que dans notre dîn, ce n'est pas uniquement une question de spiritualité, c'est une question de dynamisme. Être positif, apporter, donner ce qu'on peut pour permettre à tout le monde d'avancer. Ce sont des hadiths qui sont à la base de la construction de la société à Madina. À Madina, il n'y avait personne qui restait sous les dattiers à attendre que l'argent, la sadara arrive. Le roi Saslam essayer de solliciter le maximum de personnes pour contribuer. Un exemple, quand ils ont construit la Masjid Nabawi, tout le monde est venu aider. Même ceux qui n'étaient pas spécialistes dans ce genre de constructions, parce que quand il y a un projet commun, comme on dit, tout le monde met la main à la pâte, et parfois même à la poche, on essaie d'aider, et ça c'est un principe de notre dîn. L'autre message qu'on veut, on souhaite faire passer aux étudiants, choisissez une voie qui vous permettra de vous épanouir, bien sûr sur le plan professionnel, il faut toujours faire un métier qu'on aime, mais également spirituel. Parce qu'une personne qui apporte quelque chose à la société, c'est une voix qui est écoutée. Quand on apporte quelque chose, obligatoirement c'est une voix qui est respectée et qui est écoutée. Alors comment profiter de cette situation, si on a une situation qui est posée et qui est quand même intéressante de la société, qu'on retient que quelle que soit notre profession, on doit faire l'intention d'en faire un moyen pour montrer le vrai visage de notre religion, le bon akhlaq du musulman. Qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, qu'on soit commerçant, qu'on soit artisan, dans le relationnel, comme on dit, avec que ce soit les clients, les patients ou peu importe les personnes que nous allons côtoyer, montrer le meilleur de notre religion, c'est une da'wah silencieuse, c'est une prêche silencieuse et c'est un devoir pour chaque croyant. Maintenant, un discours un peu plus orienté vers nos jeunes collégiens. Je pense qu'il n'est pas en trop de rappeler aussi qu'il est essentiel de respecter les professeurs. Autant les élèves dans la madrasa, ils respectent les molissab, parce qu'il y a, c'est une tradition dans les familles, le respect du alim qui se perd, mais ça reste quand même un peu présent, alhamdoulilah. Autant les élèves, les collégiens principalement, doivent se rappeler qu'ils doivent du respect à leur professeur au collège, et quand on parle de respect, quand on parle de relation avec les autres, il n'y a pas de distinction de foi. Ce n'est pas un prof musulman, un prof d'une autre confession, ça n'a aucun sens. Dans un hadith, il est rappelé l'importance du respect pour les personnes plus âgées, sans distinction de confession. Et également par rapport au fait que ce sont des personnes qui apportent à nos étudiants quelque chose. Et très souvent, les retours, parfois, pour ne pas dire souvent négatifs, sur le comportement de nos jeunes collégiens dans les établissements scolaires, tout ça c'est néfaste pour l'image de l'islam, parce que très souvent, avant de voir un collégien, on voit qu'il s'appelle Mohammed, qu'il s'appelle Abdullah, qu'il s'appelle Ismaïl, et d'une certaine façon, c'est une image négative qu'on donne de la religion. Donc il faut au contraire avoir le meilleur comportement possible au collège, au lycée, afin d'être un motif de guider. Et pour revenir au choix de la carrière professionnelle, il y a une citation qui nous revient d'Imam Shafi'i, rahimahullah. Selon Imam Shafi'i, la plus noble des missions, c'est celle qui consiste à soigner les cœurs. il y a la profession de alim, celui qui va enseigner la religion aux gens. Vient ensuite, après le métier de alim, celui qui va soigner les corps. Et Imam Shafi'i, rahimahullah, faisait référence à la médecine, parce que le médecin apporte énormément à la société. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de vil métier. Quelle que soit la profession, le plus important, c'est de le faire dans un cadre licite. Et ça devient un talabu kasb al halal, un moyen d'obtenir sa subsistance. Et petite anecdote, lorsque Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il était calife, lorsqu'on lui présentait quelqu'un de noble, Omar ibn al-Khattab analysait, on va dire, le profil de la personne selon plusieurs critères. Premièrement, le critère piété, sa pratique de la religion, son assiduité aux prières, à la masjid, ainsi de suite. Ça, c'est très clair. Deuxième critère, et là, ça va nous étonner, Omar ibn al-Khattab donnait beaucoup d'importance à la culture générale. Combien, et ça c'était surtout dans les demandes en mariage. Quand arrivait une demande en mariage, il demandait à ce jeune, tu mémorises combien de poèmes ? Parmi les grands poèmes des Arabes, qu'on appelle Shi'r al-Jahiliya, c'est ce qu'on appelle en arabe al-Thaqafa. La culture générale pour Omar ibn al-Khattab, c'était quelque chose d'essentiel. Le musulman se doit d'être cultivé, de connaître sa religion sans le moindre doute, mais d'avoir une culture générale, tout ça, ça forge le respect. Et troisième question que Omar demandait, et ça c'était une question qui était très importante à ses yeux, quelle profession la personne exerce dans la société ? De quelle façon il occupe ses journées. Si cette personne ne travaillait pas, ne faisait rien de ses journées, il tombait dans l'estime de Hazrat Omar. Parce que selon Omar ibn al-Khattab, une personne, un croyant, se doit d'être actif, d'être productif, d'être un maillon dans la société. Tout ça, ce sont des valeurs de notre religion que nous devons inculquer à nos enfants. Et là, ça nous permet de voir, encore une fois, que l'islam est une religion du juste milieu. Ce n'est pas la religion de la mosquée uniquement. Ce n'est pas uniquement la religion du moussalla, du tapis de prière. Ce n'est pas une religion qui te fait vivre en marge de la société. Celui qui vit complètement déconnecté des réalités de la vie, ben c'est quelqu'un qui n'a pas compris les principes de notre dîn. C'est surtout pas une religion où le croyant va rester dans l'ibada, dans l'adoration, et attendre que les autres fassent avancer les choses. Bien au contraire, comme le hadith qu'on a cité, on parle de mu'minul qawi. Qawi, ça veut dire fort, c'est-à-dire celui qui apporte quelque chose, celui qui est capable d'être un leader, de prendre des décisions, de venir en aide aux gens, c'est quelqu'un qui est aimé par Allah. Et ce juste milieu, on le voit entre tout ce qui est intérieur, la foi intérieure, la piété, l'amour pour Allah, la crainte d'Allah. Ce sont des choses qu'on n'a pas le droit d'exposer. On ne montre pas aux gens sa piété intérieure, autrement, c'est de l'ostentation. Donc, il y a en même temps tout ce qui est dans notre cœur, notre relation presque, entre guillemets, intime avec Allah. Il y a le ibada, les actions que nous faisons de façon apparente, les réunions pour faire la namaz en jamaat, en congrégation, les actions collectives. Il y a le akhlaq, bien sûr, le bon comportement, et le mu'amala, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Il suffit d'admirer plutôt les premiers versets de Al-Baqara, le premier chapitre du Coran, Alif Lamim, Dhalika al-Kitab la rayba fi, où nous explique que Hudal lil-Muttaqin, la description du croyant, Alladhina yu'minuna bil-ghaib, qui croit en l'invisible. Ça c'est où ça? Ça c'est dans le cœur. Wa yuqimuna as-salah, l'accomplissement de la prière, ce sont les actions qui font partie du culte du musulman, parce qu'on ne peut pas être musulman uniquement dans le cœur. Ça c'est un discours qui ne marche pas non plus. Tout est dedans les propres. Qui te dit que les propres? Et en tout état de cause, ça ne répond à aucun critère, aucun verset du Coran. Dedans doit être propre, on est d'accord, mais également alladhina yuqimuna as-salah, qui accomplissent la prière, et wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qui donnent, sens du verset, de ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire que celui qui va aider les gens, c'est pas uniquement iman et salah, c'est également donner, c'est faire un geste envers son prochain, donner, permettre aux gens d'avancer, ceux qui sont dans la difficulté. On connaît, s'il y a un commerçant qui est en train de connaître une situation difficile, ben, il doit y avoir une certaine solidarité. Ça, ce sont des qualités du croyant. Et, petite parenthèse, sans être ethnocentriste non plus, mais c'est une des raisons de la réussite de la communauté musulmane à La Réunion, avec l'aide d'Allah. Avec l'aide d'Allah, le travail, l'apport de chaque commerçant à une certaine époque à la société, dans la construction de la masjid, la contribution financière de chaque personne, ben tout ça, ça a apporté une baraka, une réussite dans leur travail, et cela nous permet d'avoir, alhamdoulilah, ces acquis en 2017. Nous souhaitons, par la même occasion, puisqu'on a dit, on a prononcé le mot commerçant, par la même occasion, on souhaite beaucoup de courage et de réussite aux commerçants. Qu'Allah vous accorde la baraka, la bénédiction de votre travail. Le commerce est une pratique de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est certainement des métiers dans lesquels, avec l'agriculture, selon l'opinion des savants, ce sont les métiers où le croyant a plus de conviction en Allah. Ça ne veut pas dire que le fonctionnaire ne développe pas de tawakkul à Allah, aucunement. On comprend que quand une personne reçoit un salaire fixe, quelle que soit sa production, ce n'est pas comme une personne qui verra un chiffre d'affaires plus intéressant en fonction de ses choix, et ainsi de suite. Donc, il y a une relation avec Allah qui se forge dans le commerce, et il y a l'éthique, tout le adab et les règles à respecter. Donc, nous souhaitons beaucoup de courage également aux jeunes qui se lancent dans le commerce. Il ne faut surtout pas abandonner ce secteur, même si on est en période de crise. C'est une action qui est louable, et nos parents, bidnillah, nos grands-parents, ben, ils ont construit cette communauté par les revenus qui découlent de cette activité. Mais bien sûr, le faire de le halal sans avoir recours aux emprunts bancaires. Et on doit avoir un discours très clair, sans tabou là-dessus. Tout ce qui s'appelle emprunt bancaire avec l'intérêt, c'est un péché majeur. Et cela éloigne la baraka. Même si on a l'impression que le chiffre d'affaires augmente, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bénédiction, de baraka de la part d'Allah Azza wa Jal. Et également, une des solutions, on va dire, pour la réussite dans notre parcours professionnel, qu'on soit commerçant, qu'on soit artisan, qu'on soit, quel que soit notre métier, qu'on soit fonctionnaire, c'est faire le niya d'investir pour le din. C'est-à-dire de garder une part fixe à la fin de chaque mois pour la masjid, pour les projets en cours ou alors pour les personnes qui sont dans le besoin. Une personne qui gagne, je dis un chiffre hasard, 3000 euros, il ne doit pas utiliser ces 3000 euros pour lui. Il faut absolument qu'il y ait un quota, qu'on appelle un sam, une partie qui est pour la société, qui est pour le din d'Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, et c'est vraiment la clé de la baraka, de la réussite, de la bénédiction pour tout ce qu'on a gardé, pour tout ce qu'on a cumulé. Et nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas fait HEC, hein. Ils n'avaient pas fait les hautes écoles de commerce, mais ils pratiquaient le commerce en respectant les principes du dîn, avec la solidarité, jamais faire du tort à notre prochain, jamais être jaloux, jamais envier, et surtout avec humanisme. Et là aussi, il n'est pas de trop, comme on a fait le rappel pour les étudiants, respect des professeurs, il n'est pas de trop, je pense, de rappeler à ceux qui exercent ce métier, qui sont chefs d'entreprise, d'avoir de l'estime, du respect pour les personnes qui sont sous notre tutelle, pour les employés. Les salaires doivent être versés à l'heure, et il faut avoir la dignité, le respect. Ça, c'est à la base du dîn. Un front qui se prosterne 5 fois par jour, mais cette personne qui manque de respect aux créatures d'Allah, c'est quelqu'un qui n'avance pas dans sa religion. Voilà donc, c'est une introduction, on va dire, un peu développée concernant cette rentrée scolaire et des doigts de réussite pour nos enfants. Et les parents se doivent de... Ça, c'est un devoir, c'est l'éducation, d'apporter, de veiller qu'il y ait une hygiène de vie. On vit une époque extrêmement compliquée, une époque que les générations actuelles n'ont pas connue, avec énormément de divertissement, avec ces téléphones portables qui apportent plus de mal que de bien, où les enfants sont déconcentrés dans les révisions, ils sont plus tentés à aller vers les réseaux sociaux plutôt que de réviser. Il y a un cadre à apporter, ce cadre c'est la tarbiya, c'est l'éducation que les parents se doivent de donner. Ça se fait avec muhabba, ça se fait avec hikma, ça se fait avec sagesse. En trois minutes, il est nécessaire de parler de cette première décade justement que nous allons vivre, une décade très intense de Dhul-Hijja. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle « Afdalu » et le terme est très fort, « Afdalu » les meilleurs. Afdalu ayyam id-dunya ayyamul ashr. Les meilleurs moments de ce dunya, les meilleurs jours de l'année, ce sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Dans le hadith d'Ibn Abbas, que les actions les plus aimées par Allah, ce sont celles qui sont accomplies durant la première décade de Dhul-Hijja. Autant nous donnons de l'importance au mois de Ramadan, autant nous devons donner de l'importance aux 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et notre prophète alayhi salatu wassalam avait une habitude, à nous de voir si on peut la respecter, de jeûner le maximum de jours durant cette première décade. Bien sûr, à l'exception du 10, du 1er au 9 inclus, si on peut jeûner, ce sera profitable. Hadith de Hafsa, radiyallahu anha, dans lequel elle précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'abandonnait jamais 2 catégories de jeûne, 3 rosas, 3 jours de jeûne de chaque mois, 13, 14, 15, et la première décade du mois de Dhul-Hijja. Les savants nous donnent des conseils, si on peut jeûner donc ces 9 premiers jours, si on peut faire en sorte de faire tahajjud tous les soirs, comme on le faisait durant le mois de Ramadan, c'était l'habitude des musulmans, des pieux prédécesseurs, de faire le maximum de dhikr. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Et avec le fameux takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Et là aussi, j'aimerais ouvrir beaucoup de parenthèses. Voyez l'intelligence de contexte. Les sahaba avaient l'habitude d'aller dans les marchés ouverts, qu'on appelle les souks, les bazars, ou les par analogie à un centre commercial ou une rue piétonne, et de lire fort le takbir. Mais est-ce qu'à notre époque, on va le faire? On va s'attirer. Toutes les caméras seront braquées sur nous. L'intelligence du contexte, ça c'est important. Il y a une action, et puis il y a l'intelligence du contexte. Et le summum de cette première décade de Dhul-Hijjah, c'est bien sûr le fait de jeûner le jour de Arafat. Le prophète m'a dit que jeûner en ce jour, j'ai espoir qu'Allah pardonne une année de péché l'année d'avant et l'année d'ensuite. Ça paraît exagéré. Ça paraît extrapolé autant de pardon. C'est aussi impressionnant que Laylatul Qadr khayru min al-fisha, que la nuit du destin vaut mieux que mille nuits. Que mille mois, pardon, mais ça nous donne un aperçu de cette qualité d'Allah, Allah qui est Al-Karim, qui est généreux. Dernier point abordé, le Udhiya, le Qurbani, je pense que la semaine d'ensuite, ce thème sera développé avec les règles de jurisprudence, mais également les règles de civisme et d'éthique. Permettez-moi de juste un message. Il y a deux extrêmes de le Qurbani. Il y a l'extrême, ceux qui vont acheter un animal qui coûte, je ne sais pas, 12, 13, 14, 15 000 euros. Mais si quelqu'un le fait avec sincérité pour Allah, khair wa ni'ma. Mais on ne doit pas se baser sur ce genre d'investissement. On n'a pas à rougir si on achète un animal qui est moins gros. On le fait lillahi azza wa jal. Et on peut avoir un petit cabri, je m'avance un peu, d'aller prix à 200, 250 euros. L'autre extrême, c'est ceux qui choisissent la facilité. Bon, là c'est Kurbani, on envoie 30 euros en Inde, à Madagascar ou ailleurs, sans remettre en question le fait que dans d'autres pays, il y a plus de besoins. Mais le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, le fait de le faire avec notre main, c'est symbolique. C'est vivre ce que Ibrahim alayhi salam avait vécu, c'est vivre ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait vécu et avait mis en pratique. Il ne faut pas qu'on cherche une telle facilité. Et honnêtement, 200 euros, même si on est en période de crise, suffit parfois d'économiser 20 euros par mois sur un an. Et les savants disent qu'en termes de tarbiyah, d'éducation, ça donne des repères à nos enfants. Le repère Eid al-Adha, une journée de Bakrid sans voir le papa amener un animal, le couper, ainsi de suite. Il n'y a pas ce charme, donc dans la mesure du possible, on essaie de l'appliquer, de mettre en application cette action directement de par nous-mêmes pour faire vivre le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, qu'Allah nous accepte. Dernier mot, alhamdulillah, il y a baraka de le temps. Depuis le Shawwal, on a eu au moins 35 nikahs. Un mutawalli sab, je ne vais pas compter, je dis au hasard. Hein. Si vous dites oui, c'est une réponse officielle. Il y a eu au moins 35 nikahs, dont un ce soir, un de notre qurra qui se marie. Allah Rabbul Izzah, un du'a général, accorde beaucoup de bonheur, de mawadda et de rahma. De l'amour, mais l'amour c'est pas uniquement de French love, c'est de la compassion aussi. Que dans le cœur on aime sa femme, pas uniquement, pas un amour platonique avec ce qu'on donne, mais intérieurement qu'on ait de la compassion, de l'amour sincère, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Khadija radiallahu anha ma tawfiq illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen. On fait les sunnahs, Inch'Allah, et puis le khutbah à 13h.